On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, j'espère que la journée a été bonne. On la termine ensemble, on commence ce début de soirée ensemble si vous préférez. Et on va parler ce soir, comme disait Jules, d'amour, de désamour, de mensonges, de trahison, de pardon, puisqu'on s'intéresse à l'infidélité. Un homme sur deux et une femme sur trois en France y ont succombé selon une récente enquête de l'IFOP. Est-ce que vous avez déjà été trompé ou est-ce que vous avez trompé? Comment vous l'avez appris? Comment vous l'avez deviné peut-être aussi? Comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez pardonné ou est-ce que cette infidélité a été fatale à votre couple? On vous attend au 0810 055 056. Je le dis, je le répète, vous pouvez changer d'identité, hein, de prénom, de ville, même pas donner de ville du tout. L'important, c'est d'en parler et on va le faire ce soir avec notre grand témoin, le psychiatre et psychothérapeute Christophe Fauré, spécialiste des ruptures de vie et auteur du livre « Est-ce que tu m'aimes encore ?» aux éditions du Livre de Poche. Bonsoir Christophe Fauré.
Bonsoir.
Votre livre, c'est un véritable guide de l'infidélité, alors pas un guide genre comment tromper son mari ou sa femme, mais sur tout ce qui se passe avant, pendant et après. Et
exactement, parce qu'on est vraiment... comme vous l'avez dit tout à l'heure, Vanessa, ça arrive à tout le monde et on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas, un monde de souffrance, un monde de mensonges où on découvre parfois la personne qu'on aime sous un jour complètement différent. Et j'ai écrit ce livre avec l'idée de donner une feuille de route. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela se passe? Et éventuellement, peut-être si ça débouche sur une séparation, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et peut-être avec l'idée de se reconstruire après l'infidélité. Quels sont les éléments nécessaires? Quelles sont les démarches nécessaires? Quel travail chacun doit faire? Et j'ai vraiment eu à cœur de ne pas désigner, ne pas juger dans ce livre. Je parle de vraiment la personne qui trompe, la personne trompée et la troisième personne, parce que je me refuse à utiliser le mot avec qui a une connotation péjorative quand même d'amant ou de maîtresse.
Il y a une personne quand même derrière.
Il y a une personne derrière et au bout du compte, chacun essaye d'être heureux dans cette triangulation, même si on s'y prend comme des manches, chacun essaye de trouver du bonheur. C'est extrêmement maladroit, ça génère énormément de souffrance, mais c'est quand même le fond de cela. Et donc ça, même si chacun souffre, et je me suis vraiment refusé à mettre du jugement.
On va parler bien sûr de tout ce qu'il y a dans le livre. Enfin, ouais. On va essayer de parler de tout ce qu'il y a selon les témoignages aussi des auditeurs, selon les situations. Les cas sont tous différents, tous particuliers. Mais venez nous dire comment ça s'est passé pour vous, comment ça se passe peut-être en ce moment. Vous avez la parole. On parle de l'infidélité ce soir dans On se dit tout jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
On parle de l'infidélité ce soir dans On se dit tout. Où commence l'infidélité? Peut-on pardonner une infidélité? On en parle ce soir avec vos appels, vos témoignages au 0810 055 056. Comment avez-vous appris l'infidélité de votre conjoint? Est-ce que vous avez pu pardonner ou est-ce que ça a été impossible? Vous êtes en couple, amoureux, mais il ou elle est infidèle. Qu'est-ce qui vous attire dans l'infidélité? On peut en parler aussi. Et puis on va élargir aussi avec les trois personnes. Celui qui trompe, celui qui est trompé et cette fameuse troisième personne. Ouais. Qui est-il ou qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle ressent? Vous venez nous en parler au 0810 055 056. Notre grand témoin ce soir, Christophe Fauré, dont le livre « Est-ce que tu m'aimes encore ?» vient de ressortir en édition le Livre de Poche. On va accueillir Sarah dans la Loire. Bonsoir Sarah.
Oui, bonsoir.
L'infidélité, vous connaissez ça? Vous l'avez connu avec votre premier mari? Vous le connaissez avec votre deuxième mari?
Oui, alors on va dire premier mari, marié 20 ans, des enfants, une jolie vie, et puis un jour tout s'effondre vers la quarantaine, on va dire infidélité de cœur, où mon ex-mari, l'autre qui n'aime pas de femme, cette femme-là et moi, donc là ça a été une destruction énorme. Je pense qu'il n'a jamais eu de rapport physique avec cette femme, mais une véritable destruction qui a conduit à un divorce, parti avec mes enfants, et après j'ai...
On vous entend très très mal Sarah, il y a beaucoup de bruit autour de vous.
Ah, pourtant, il n'y a pas grand-chose.
Ah, c'est un petit peu mieux là, c'est déjà mieux, un petit peu.
Allô?
Oui, Sarah, oui. C'est un peu compliqué, attendez. On va essayer de vous retrouver bien pour bien comprendre ce que vous dites aussi, parce qu'il y a énormément de bruit. Je ne sais pas si vous êtes, dans le trafic. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne déjà sur le début du témoignage de Sarah. Elle dit « Je ne pense pas qu'il m'ait trompé physiquement, mais c'était une infidélité de cœur. » C'est là où on se demande, c'est quoi l'infidélité ? Ça commence où ?
Alors, pour ce livre, j'avais besoin de trouver une définition, parce qu'il y a effectivement plein de définitions possibles. Alors, c'est une définition, après on peut en trouver d'autres, mais il y a selon moi trois critères. Le premier critère, c'est que la relation, elle est secrète. C'est vraiment lié au secret. La deuxième, c'est qu'il y a une implication émotionnelle de la personne qui trompe. Implication plus ou moins forte. Et le troisième, il y a une alchimie sexuelle. Ça veut dire, comme pour Sarah, pas nécessairement un passage à l'acte sexuel, mais il y a un climat. Un climat sexuel, un climat érotique où il y a du désir, même s'il n'y a pas passage à l'acte. C'est pour ça qu'il peut y avoir infidélité sur Internet, où c'est secret, où il y a une implication émotionnelle avec la personne avec qui on chatte, et on se chauffe, entre guillemets, il y a une excitation sexuelle, une alchimie sexuelle, mais pas nécessairement de passage à l'acte. Quand ces trois critères sont réunis, c'est là où on peut dire qu'il y a infidélité, c'est un point de repère.
Sarah est de retour avec nous, vous dites ça a été la fin de l'histoire, le divorce. Comment vous l'avez découvert, vous, d'ailleurs ?
Par hasard, il se trouve que mon mari était c'était dans la médecine en fait, donc un contact avec les corps humains, et moi j'ai jamais été une femme jalouse, voilà, j'ai tout allait bien, et je l'ai découvert un jour où une attitude un petit peu anormale, où il travaillait énormément, même le week-end, il s'occupait plus de ses enfants du tout, donc ça m'a permis de découvrir ça. Je lui ai mis j'ai tenu à rester, à comprendre, et pendant 2 ans, et bon, bien sûr, après il y a eu d'autres choses qui sont pas intéressantes pour l'émission. Donc je suis partie, j'ai rencontré d'autres hommes, et dont mon nouveau mari depuis, vous voyez, je vais avoir bientôt 48 ans. Je suis mariée depuis 6 mois, j'ai toujours mes 4 enfants avec moi, je les élève, lui-même a des enfants, et cet homme s'est annoncé tout de suite volage, c'est-à-dire un homme à femme. Moi, sur le coup, j'étais un peu choquée, mais je me suis dit, je dis pas que c'est simple, mais au final, moi, ce qui m'importe, c'est la fidélité dans les sentiments. Et du coup, moi-même, je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'absence de jugement, la présence de jugement de l'autre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est dans le respect de l'autre, Donc, finalement, on a une vie extrêmement, on va dire, épanouie, normale.
Et en même temps, il vous trompe pas, entre guillemets, puisqu'il vous a dit les choses dès le départ.
On n'a pas la composante de secret, en fait. Et c'est vrai, non, ça nous fait sortir la définition. En fait, c'est un accord. C'est dans votre contrat de la relation, et ça fonctionne bien comme ça apparemment, non ?
Très très bien.
Et vous n'êtes pas en souffrance par rapport à ça, il n'y a pas de tension,
ça
non, du tout.
C'est compliqué pour moi qui avait été fidèle pendant 20 ans, ouais, qui avait une conception du couple, ça dépend de notre posture, je pense.
Ouais,
et au final, moi, ce qui m'importe, c'est quand il me dit « je t'aime », quand je le ressens, quand je compte pour lui, même au niveau de notre sexualité, qui est épanouie, mais normal, hein, on n'a rien d'extravagant, et je lui accorde, entre guillemets, le pardon, et à la limite, tu veux pas le savoir, mais du coup, je me l'accorde aussi, et finalement, je me suis libérée de beaucoup de choses, et je suis une femme tout à fait normale, pas du tout avec une sexualité hyper débridée, pas du tout, je suis très épanouie, et finalement, je crois que je le vis beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
Et Sarah, est-ce que le fait de laisser beaucoup d'espace sexuel à votre mari fait qu'au bout du compte, il n'utilise pas tant que ça, cet espace ?
Eh bien, complètement.
C'est-à-dire que, oui. C'est ça la solution ?
C'est étonnant, oui.
Parce qu'au début, ça vous imaginez, ça a été compliqué quand même d'accéder à quelque chose de nouveau quand on a 38 ans, qu'on divorce, qu'on a été hyper fidèle avec des principes, d'éducation. Ça a été très compliqué pour moi. Et c'est une forme de lâcher prise. Effectivement, oui, il y accède pas tant que ça. Et puis moi non plus. Alors je m'interroge. J'ai pas la vérité. Je n'ai pas la vérité, mais c'est une belle expérience de vie et qui est aussi sur l'absence de jugement, parce que quelque part mon ex-mari était extrêmement jaloux et je ne comprenais pas. Parce que moi j'étais vraiment dans une démarche absolument pas complètement fidèle, mais vraiment à même pas y penser. Et lui passait son temps, ne serait-ce que mes collègues de travail, qui étaient très jaloux. Et moi là j'ai un mari mais pas jaloux du tout.
Et ça se retrouve souvent, ça, Christophe Auré, des hommes ou des femmes. Celui qui trompe, finalement, est aussi jaloux de sa compagne ou de son compagnon.
On retrouve toutes les configurations, mais c'est il peut être jaloux que le compagnon ou la compagne fasse la même chose que lui. Il a un peu l'exclusivité de l'infidélité. Mais dans ce que nous dit Sarah, c'est intéressant parce que plus elle donne l'espace, plus il le prend pas. Et il y a quelque chose qui supprime le côté un petit peu excitant dans l'infidélité, qui est la transgression. Le secret, le cachet, l'excitation de pas être pris la main dans le pot de confiture. Et quand il y a plus du tout de transgression, quand il y a une visibilité et acceptation de cela, on voit que ça dégonfle complètement toute envie, peut-être même d'aller voir ailleurs. Donc pour la reconstruction, c'est une donnée qui est intéressante. Je ne dis pas que c'est vraiment la solution,
mais
c'est intéressant votre témoignage, Sarah, sur l'espace donné à l'autre qu'il n'utilise finalement pas.
Vous dites aussi dans votre livre qu'il y a des différences de ressenti entre les hommes et les femmes. Vous dites, chez l'homme, la sexualité n'implique pas forcément des sentiments, alors que la femme a besoin d'amour pour aller voir ailleurs.
Oui, ça peut paraître un cliché, mais ça reste vraiment vrai. C'est étonnant, quand un homme est trompé par son époux, il est beaucoup plus heurté si elle a eu des rapports sexuels, alors que quand une femme est trompée par son mari, elle l'est plus heurtée s'il y a eu une intensité d'émotion, de sentiments. Mmh. Bon, on est clair que ce sont des schémas un peu caricaturaux, un peu grossiers, mais ça se retrouve quand même.
Merci beaucoup, Sarah, d'avoir ouvert cette émission, d'être venue témoigner ce soir avec autant de sincérité, c'est important. Et jusqu'à 22h, vous avez la parole, on parle de l'infidélité ce soir dans On se dit tout avec vos témoignages au 0810 055 056. Si vous avez connu l'infidélité, si vous avez découvert l'infidélité de votre femme ou de votre mari, si vous avez été cette troisième personne un petit peu au milieu d'un couple, au milieu d'une tempête aussi, comment on réagit, quelle place on a, venez nous rejoindre avec ce soir Christophe Fauré qui est notre grand témoin, auteur du livre « Est-ce que tu m'aimes encore ?» se reconstruire après l'infidélité au livre de poche.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Sans forcément passer à l'acte, un Français sur deux a déjà embrassé quelqu'un d'autre que son partenaire et 50% admettent s'être déjà livré à un jeu de séduction à caractère adultérin. Alors est-ce que embrasser, c'est tromper? Est-ce que échanger des messages coquins, c'est tromper? Où commence l'infidélité et comment on en parle ou pas dans le couple? Comment le couple d'ailleurs peut-il s'en remettre? Vous avez connu ça d'un côté comme de l'autre? Eh bien venez en parler avec nous. C'est le sujet dont se dit tout ce soir au 0810 055 056. Direction Grenoble avec Hermione. Bonsoir Hermione.
Bonsoir.
Vous avez découvert l'infidélité de votre mari, la double infidélité presque, j'ai envie de dire, en lisant votre témoignage.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai découvert un jour donc mon mari me trompait en trouvant une lettre dans mon véhicule qu'il avait emprunté. Et il s'adressait donc à sa maîtresse en parlant de l'enfant qu'ils avaient eu ensemble. Donc je suis un peu tombée des nues parce que bon, je ne m'y attendais pas du tout. Je lui ai demandé de choisir entre elle et moi. Il a d'abord refusé d'avouer qu'il avait une maîtresse, qu'il avait un enfant et tout. Je lui ai proposé de verser une pension à cette femme, puisqu'il lui avait fait un enfant, s'il voulait rester avec moi et ses deux enfants, puisque moi j'avais moi-même deux enfants, j'étais également enceinte du troisième enfant. Il n'avait pas voulu prendre de décision, donc je l'ai prise pour lui, je l'ai mis dehors, j'ai jeté toutes ses affaires dehors et j'ai demandé le divorce.
Et si vous avez dit « je reste », comment vous auriez réussi à oublier cette étape-là ?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je m'étais mise dans la tête que bon, il aurait pu peut-être oublier cette femme, parce que d'après ce que j'ai compris, suivant les mots qu'il avait employés dans sa lettre, parce qu'il a dit finalement, je suis heureux d'avoir eu cet enfant avec toi. Et le mot finalement m'avait fait dire que en fait, il s'était fait piéger par cette femme. Donc je me suis dit peut-être que bon, c'était juste. Je vais dire un plan cul, hein. Bon, c'était peut-être juste ça, et qu'il s'était fait piéger et qu'il souhaitait rester avec sa famille, ses enfants. Et comme il ne choisissait pas, j'ai préféré moi choisir parce que c'était pas vivable comme situation. Il passait du temps avec elle, il découchait souvent, les enfants pleuraient beaucoup qu'elle voulait voir leur père. Donc j'ai préféré mettre un terme à tout ça
Voilà. C'était peut-être la solution la plus saine pour tout le monde, vous ne pensez pas?
Hein, je pense.
Parce que rester dans ces eaux troubles, ça aurait peut-être vraiment été délétère pour tout le monde, hein, ne croyez pas?
Avec le recul, je pense que je n'aurais plus eu confiance en cet homme et j'aurais été suspicieuse, j'aurais eu des doutes et je pense que le couple n'aurait pas été serein, enfin la relation n'aurait pas été sereine.
Et est-ce que votre ex-conjoint, finalement maintenant on peut le dire comme ça, est-ce qu'il vous a tout expliqué? Est-ce que vous avez eu les réponses à toutes vos questions?
Pas du tout, parce qu'en fait, après peu de temps après, il s'est mis avec cette femme qu'il a ensuite quittée. Cette femme, donc, à qui il avait fait un enfant également, qu'il a quitté, c'est pour ça, je pense qu'il s'était fait piéger, peut-être, mais avec le mal qu'il m'avait fait, le mal qu'il avait fait à ses enfants également, je n'ai pas pu renouer de relation, on ne se parle pas du tout, même dans les, cérémonie familiale avec mes filles, on ne se parle pas, je ne peux absolument pas lui pardonner.
Mais parler, c'est important, Christophe Fauré, il faut avoir les explications à un moment donné, si on veut passer à autre chose, si on veut se reconstruire.
Alors, dans le meilleur des mondes, oui, bien sûr, les explications sont importantes, mais comme l'exemple de madame, là, il y a vraiment parfois, il y a des cas de figure où la personne refuse complètement de donner la moindre explication. Et c'est vrai, et ça, des études américaines le démontrent, c'est beaucoup plus difficile de se reconstruire après une infidélité si la personne qui a trompé ne révèle rien. Rien, ne dit rien de ses motivations, du pourquoi, parce que ça laisse après dans l'esprit de la personne trompée une interrogation qui est vraiment presque traumatique, parce que ça tourne dans la tête, on ressasse, et le grand danger, c'est comme on n'a pas d'explication sur le comportement de l'autre, on a cette tendance très humaine à se dire donc c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui suis en faute, il y a donc nécessairement quelque chose qui tourne pas rond chez moi, je ne suis pas assez ceci ou assez cela, et comme il n'y a pas c'est pas relayé par l'autre qui dit mais non ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi parce que ceci, parce que cela, ça peut vraiment miner profondément l'estime de soi. Donc si là je m'adresse aux hommes, aux femmes qui ont trompé et qui essaient de reconstruire leur couple, essayez du mieux possible de parler, d'expliquer, pas nécessairement tout dans le détail, mais d'expliquer vraiment les motivations profondes de ce qui s'est passé pour vous, et plus vous allez cheminer vers la personne que vous avez trompée, votre compagnon ou votre compagne, en essayant vraiment de comprendre aussi quelle était sa souffrance, lui dire je mesure combien je t'ai fait souffrir par cette histoire. Je vais essayer du mieux que je peux de t'expliquer ce qui s'est passé en moi, même s'il y a une partie de moi qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Eh bien là, je vous assure, il est démontré dans tous les sens que ceci fait le lit d'une reconstruction qui peut être très très qualitative.
Hermione, merci de nous avoir appelés ce soir sur France Bleu. Vous aussi, venez nous rejoindre comme Hermione, comme Sarah. On parle de l'infidélité ce soir avec vous qui avez découvert l'infidélité de votre conjoint. Ou peut-être de l'autre côté, hein, c'est vous qui avez trompé. Comment ça commence, l'infidélité? Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit « je suis en train de détruire mon couple » Est-ce qu'on se dit « je suis en train de vivre quelque chose d'exceptionnel »
On se dit pas grand-chose au début.
C'est vrai,
hein, vraiment. Parce que la plupart des personnes que j'ai rencontrées qui ont été infidèles, c'était pas du tout un projet. Absolument pas. On est complètement cueilli par un regard ou par même une amitié au travail qui s'inscrit vraiment dans quelque chose du quotidien et tout doucement. De cafétéria, en déjeuner, en rencontre, en réunion, on se rend compte que les regards se font plus insistants, qu'il y a un effleurement, qu'il y a quelque chose qui naît, et la personne peut parfois être très, très, avoir des valeurs très fortes d'engagement, de fidélité, de respect, et se retrouve à faire l'amour avec une autre personne, en se disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et emporté par, l'excitation de la situation, emporté par quelque chose d'un peu fou qui se passe à ce moment-là, on se retrouve dans une histoire extra-conjugale, en se disant, mais...
C'est pas moi, pourtant.
C'est pas moi, pourtant, mais pourtant, on y est.
0810 055 056. Venez apporter votre témoignage, vous aussi, jusqu'à 22h. On se dit tout. Nous serons avec Gérard dans quelques instants. Il a été infidèle et il dit « Malheureusement, j'ai été infidèle ». On l'écoutera tout de suite.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Le docteur Christophe Fauré est notre grand témoin. Ça vous faisait réagir
Non, c'était les Bee Gees. En fait, oui. Ça fait remonter des souvenirs.
Ah d'accord, je crois qu'il y avait un rapport avec le sujet de ce soir.
Non,
ça commence comme
c'était,
une blague peut-être.
C'était une live, etc., etc.
On parle de l'infidélité ce soir sur France Bleu. Est-ce qu'il suffit de craquer physiquement sur son collègue de travail pour être infidèle? Est-ce qu'il, pour vous, il y a infidélité uniquement s'il y a une relation sexuelle? On se dit tout ce soir. À quel moment ça commence? Est-ce qu'il faut l'avouer? Est-ce que ça peut redonner un coup de boost inconscient à votre couple ou au contraire, est-ce que ça la détruit? 0810 055 056 pour venir nous raconter vos expériences à vous sur l'infidélité, en compagnie donc du psychiatre et psychothérapeute Christophe Fauré, auteur de « Est-ce que tu m'aimes encore ?» aux éditions Le Livre de Poche. Et nous sommes avec Gérard, en région parisienne. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir Vanessa et bonsoir docteur.
Bonsoir.
Alors vous dites « J'ai été malheureusement infidèle ».
Oui, j'ai eu tort. Enfin bon, bref, je crois que en fin de compte, on est toujours tenté sur l'infidélité. Je pense que les hommes, quelque part, ça les rassure, quoi. Ils ont besoin de séduire. Bon, moi, à ce jeu-là, j'y ai tout perdu. En même temps, je crois que j'ai eu l'occasion, bon, je crois qu'on reperpétue un petit peu le schéma de ce qu'ont été un peu nos parents. Je crois que mon père, moi, a été un grand séducteur. Je le voyais toujours avec plein, comme disait Gilbert Bécaud, de sanglades. Et par la suite, ça m'est arrivé d'avoir des aventures infidèles, mais et en plus de l'avouer, c'est-à-dire que ça me tenait, j'avais du mal à contenir ce secret en moi, et après je l'avouais à la personne que je l'aimais, quoi. Donc je l'ai perdu automatiquement parce qu'il faut dire qu'une femme ne pardonne jamais, ça c'est clair, hein, et puis en plus c'est impardonnable.
Ça dépend, Gérard.
Ça dépend.
Oui, mais en même temps, à l'époque, je voyais un psy, c'est bizarre, parce que j'en avais parlé, et il m'avait dit, ça vous a servi à quoi? Ça vous a servi, en fin de compte, à soulager votre confiance, et à faire du mal, parce que vous pouviez garder ce secret pour vous, si ça n'avait pas plus d'importance. Mais j'avais besoin de dire la vérité.
Alors, et vous alliez voir ailleurs pour quelle raison? C'était un coup de foot? C'était un besoin physique? Ah ben là, c'était quoi?
Oui, dans le cas présent, oui, c'est-à-dire que c'est la séduction. Vous savez, j'ai l'impression que les hommes sont des coqs. Et puis même quand vous êtes avec quelqu'un, c'est très bizarre, mais autant, bon, ben, quand vous êtes seul, vous êtes pratiquement transparent. Quand vous êtes avec quelqu'un, je ne sais pas si vous affichez une assurance ou quelque chose comme ça, et les femmes viennent plus facilement, on dirait que... Et même accompagnées, hein, vous faites carrément draguer, quoi, en fait. Hein. Et alors, après, la tentation est facile. Hein, bon, automatiquement, vous rentrez dans le jeu de la séduction. Et... un peu pour pas être idiot, parce que là, je vais peut-être être maladroit, mais bien souvent, vous vous relevez de vous, vous trouvez devant le défi de la sexualité, de vous dire, en fin de compte, je suis mise au défi, pourquoi pas, et vous vous trouvez embringué dans une histoire où vous perdez votre couple. Et maintenant, je sais que si je devrais reconstruire une histoire, plus jamais, parce que je me rends compte que j'ai tout perdu, et que, de toute façon, une femme qu'on a une, il faut le... Il n'y a pas de place pour deux dans notre cœur, quoi, en fait.
Vous le dites dans le livre, Christophe, ça commence toujours par c'est juste un copain, c'est juste une collègue.
Voilà, on essaie de minimiser et au bout du compte, on est dépassé par ce qui se passe. Mais c'est vrai ce que dit Gérard, l'infidélité, c'est vraiment un moyen pour quelque chose. Il y a quand même un projet derrière l'infidélité, qu'il soit conscient ou inconscient. Ça peut être savoir. En fait, l'infidélité, il y a plein de fonctions. Il y a en fait pas une infidélité, mais des infidélités. Par exemple, il y a l'infidélité qu'on cherche très peu à dissimuler et qui a pour fonction de mettre un terme à la relation de couple. Là, on fait pas attention, on laisse traîner les SMS ou les lettres, et là, c'est destiné à être découvert, et ça fiche tout en l'air, et c'est le projet qu'on avait à l'esprit. Mais il y a aussi des infidélités qui sont des infidélités où le lien d'amour, paradoxalement, n'est pas remis en question. On peut vraiment être très attaché et aimer la personne avec qui on est officiellement et entrer dans une infidélité parce que c'est pas le lien d'amour qui est en question. On a un souci avec soi-même. On est peut-être dans une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, avec une insécurité sur est-ce que maintenant que je prends un peu de l'âge, est-ce que je peux toujours séduire, ou alors je me sens assez inexistant dans le regard de mon épouse. C'est peut-être pas vrai, mais j'ai le sentiment que je suis inexistant.
Ça s'entend ça comme argument pour justifier.
Exactement, oui. Ouais. Et j'ai l'impression d'exister dans le regard de ma collègue, et donc je vais me rapprocher de ce regard qui me fait exister, et de fil en aiguille, on arrive à entrer dans une relation. Donc ça peut paraître bizarre, hein, mais le lien d'amour n'est pas toujours, l'atteinte du lien d'amour, ou le désamour, ou la perte d'amour, n'est pas nécessairement un des moteurs de l'infidélité. C'est en fait, pour tout vous dire, très souvent, ça renvoie à une problématique personnel. Et c'est important à comprendre, parce que quand on essaie de reconstruire son couple, on peut dire « mais tu sais, je t'aime toujours, mais ce qui s'est passé parle essentiellement de moi, et c'est vrai que j'ai besoin de faire un travail pour moi, pour essayer de comprendre ce qui était insécure en moi, ou ce qui avait peur, ou ce qui avait besoin d'être rassuré, ou ce qui avait besoin d'être remonté en termes d'estime de moi. J'ai pris une solution qui est complètement maladroite, d'aller chercher cette réassurance à l'extérieur de notre relation, et alors que je devais le chercher à l'intérieur de moi. Mais voilà, essaie de comprendre que c'est ça qui s'est passé. Bien, vous êtes sûr, quand on a un discours comme ça, ça ouvre beaucoup plus de place à la reconstruction.
Encore faut-il que l'autre personne ait envie d'écouter et de recevoir ce genre de message.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Gérard, de votre appel et de votre témoignage. Jusqu'à 22h, on parle de l'infidélité ce soir dans On se dit tout. Vraiment pour comprendre ce qui s'est passé pour vous. Comment vous avez réagi? Comment ça s'est passé d'un côté ou de l'autre aussi? On parle de celui qui a été trompé, de celle qui a trompé. On peut parler de la troisième personne également, la place qu'elle a. Si vous vous reconnaissez dans un de ces profils, venez nous rejoindre au 0810 055 056. On en parle sans tabou. Et je le rappelle encore une fois, vous pouvez changer de prénom et de ville pour témoigner.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Comment se reconstruire après l'infidélité? Comment faire comme si de rien n'était alors que c'est pas rien du tout ce qui vient de se passer? On en parle ce soir sur France Bleu avec vos parcours de vie à vous, vos questions à ce moment-là, vos interrogations. Est-ce que il ou elle m'aime encore? Est-ce que ça comptait ou pas cette aventure? Est-ce qu'on pourra s'aimer de nouveau comme avant? Est-ce que je vais pas y penser tout le temps aussi? On vous attend au 0810 055 056, en compagnie de Christophe Fauré, auteur du livre « Est-ce que tu m'aimes encore ?» qui vient de sortir en version livre de poche. Et nous sommes avec Georges en Haute-Savoie. Bonsoir Georges.
Oui, bonsoir.
Alors vous avez goûté à l'infidélité il y a un an.
Oui, si on peut dire goûter, quoi. Voilà. Pour moi, c'est pas goûter, ce n'était pas une aventure, c'est une chose sérieuse.
Oh, ça vous touche encore beaucoup Georges, visiblement.
Oui, tout à fait.
C'est une histoire qui a duré combien de temps?
Ça a duré à peu près une année, quoi.
Une année. C'est pour ça que je dis une histoire, vraiment.
Oui, c'est une histoire, oui.
Et elle est terminée maintenant?
C'est-à-dire qu'on a, on a un peu des difficultés aujourd'hui, puisqu'on se retrouve devant la justice, doublement, puisque moi, j'ai engagé un divorce, enfin, mon épouse a engagé un divorce. Et puis, voilà, ça s'est terminé par un accident de voiture. Et puis c'est comme ça que la père s'est découverte, par son mari et par mon épouse. Et on se retrouve devant la justice, puisque c'est un accident. Bon ben, la dame, on s'est fâché, les deux, bon, on s'est un petit peu disputé. Et puis l'accident a été provoqué, j'ai eu une jambe cassée, et puis maintenant on est devant la justice par rapport à ça. Et c'est une personne que j'aime encore, je crois qu'elle m'aime encore, elle m'a encore dit il y a une quinzaine de jours, qu'elle avait beaucoup d'affection pour moi. Mais voilà, elle a un mari, des enfants. Et puis voilà, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je sais plus trop où j'en suis, quoi, par rapport à ça.
C'est quelqu'un que vous avez rencontré comment, Georges?
Dans la vie courante, le travail et autres, quoi. Et puis on s'est pris d'amitié. Un jour, elle m'a dit qu'elle était amoureuse de moi. Et puis, moi, n'y croyant pas, mais c'est venu très rapidement aussi. Et puis, aujourd'hui, je peux pas décrocher. Oui. J'ai du mal de l'oublier.
Oui. Qui a décidé le divorce? C'est votre épouse ou c'est vous-même?
Alors, c'est mon épouse qui a décidé le divorce. Oui. Mais bon, c'est-à-dire qu'elle m'a laissé quelques mois de sursis. Elle a continué de vivre avec moi, tout en encaissant la chose, on va dire, excusez-moi du terme. Et puis, par rapport à ça, moi, j'ai pas pu décrocher.
D'accord. Donc, elle avait donné, comment dire, une chance à votre couple, voilà, de voir si c'était possible de reconstruire quelque chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la tentative de reconstruction?
Ben, c'est moi. Moi, personnellement, j'ai pas pu lâcher mon histoire d'amour, quoi, auprès de mon ami.
Là, c'est une vraie histoire d'amour dont vous parlez, Georges. Hein.
Oui, je pense.
Il y avait plus d'amour pour votre femme?
Si.
Si aussi?
Je ne l'ai jamais oublié.
On voit que c'est... Oui, c'est... On dit toujours, ah, c'est dégueulasse, il a trompé sa femme, mais on voit que ça fait souffrir aussi.
Mais je crois, vous savez, en accompagnant des personnes qui ont été trompées, et les troisième personnes se rendent compte qu'au début, on pense qu'il y a du bonheur à trouver là-dedans, mais sincèrement, et c'est vraiment pas quelque chose de moral que je vous dis, Georges, hein, vraiment, vraiment pas. Au bout du compte, il y a tellement de souffrances qui résultent de cela. Souffrance. Alors, l'amour, il est vraiment aveugle. Il ne voit pas la situation, parfois dramatique, qu'il est en train de créer. Et on peut tellement perdre, alors qu'on pense que ça va apporter de la joie, du peps, du piment. Oui, au début, sûrement. Mais à un moment donné, les trois, ou un des trois, ou deux, ou sur les trois, en tout cas, va vraiment, vraiment souffrir. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit aborder avec le plus de sagesse possible quand on s'engage dans ce type de relation, parce qu'il y a vraiment ce gros potentiel de souffrance dont on parle.
Georges, merci de nous avoir appelé. Ne restez pas tout seul, hein, surtout. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin de parler, c'est très important. On va accueillir Isabelle qui nous appelle de Paris. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
C'est une situation très différente, la vôtre. Vous avez 53 ans, en couple depuis 4 ans. Et racontez-nous ce qui se passe.
Alors mon compagnon a reçu un message il y a quelques jours, un soir, et j'ai senti qu'il n'était pas à l'aise. Je lui ai demandé ce que c'était et il a bougonné en disant « c'est une fille qui m'a envoyé un message, elle s'est trompée ». Je suis une femme, donc je suis allée vérifier quelques jours après, quand même, dans son téléphone, chose qui n'est pas bien. Et en fait, je me suis aperçue que c'était un de ses copains qui lui avait envoyé une photo de famille. Ça, c'est une chose. Et mais après, il a échangé avec ce copain plusieurs messages tout au long de la journée en disant que cette femme était belle et bonne et que il lui ferait bien une réussite totale, les deux, enfin bon, voilà. Et c'est pas du tout dans l'attitude de mon mari, parce qu'il a de grandes valeurs morales. Néanmoins, moi, je me sens vraiment trahie, trompée. Depuis, je ne pense qu'à ça.
Ouais. Vous savez qui c'est, cette dame sur la photo?
C'est, vous savez, très certainement, les sites un peu olé olé. Voilà, je pense que c'est ça. Une femme jeune, plus jeune que moi. Mais c'est même pas le sujet, c'est... Le fait que mon mari échange avec ce copain comme ça, alors que ce n'est pas dans sa manière d'être, c'est vraiment quelqu'un qui a de grandes valeurs morales et
vous en avez parlé de cette situation là de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Oui.
Non.
Non,
ça
pourrait être vraiment important, parce que votre relation semble vraiment vraiment bien et votre compagnon semble un cas vraiment bien. Ce serait important d'aborder ça, de lui signifier clairement que vous êtes blessé. Vous dites vraiment, comprends que je suis vraiment blessé et essaie de m'expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ta motivation. Et je pense qu'il va se prendre les pieds dans le tapis en étant extrêmement maladroit dans sa réponse, parce que là on est vraiment dans du désir un peu brut, un peu archaïque, mais ça vaut le coup quand même d'engager un dialogue.
Et si on essaye de sortir un petit peu tout ça, on imagine une soirée entre copines, on pourrait avoir pratiquement la même réaction, montrer des photos d'un acteur un peu dénudé. C'est un peu la même chose ou pas, Christophe?
C'est vraiment le fantasme. Hein. C'est, en plus que ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez ou que votre compagnon connaît, on est vraiment dans ce que notre société propose comme image fantasmatique, avec des images souvent photoshopées où il y a vraiment...
C'est pas la vraie vie.
C'est des projections, on est dans le virtuel, dans le fantasme, et c'est vrai, alors c'est pas une excuse, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le jardin secret. Chacun d'entre nous a un jardin secret où on ne fait pas rentrer même la personne qu'on aime le plus au monde. Et dans ce jardin secret, il y a des zones d'ombre qui sont dans l'intimité de notre intimité. Et c'est là où est le lieu de tous les fantasmes, des fantasmes parfois avec des pratiques sexuelles qui peuvent aller vraiment très loin. Mais c'est vrai que ces images, ces supports sont le lieu des fantasmes.
Merci Isabelle de nous avoir appelé et dialogué. Hein. On sent bien que c'est la clé.
Essentiel.
Là. 0810 055 056, on continue de vous écouter sur l'infidélité après les infos de 21h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et on parle de l'infidélité surtout et de ce qui se passe après, de comment se reconstruire parce qu'on peut quand même sauver son couple malgré une entaille dans le contrat, comme on dit. Routine dans le couple, insatisfaction sexuelle, manque de séduction, coup de foudre. Quelles sont les raisons qui vous ont amené ou qui ont amené votre partenaire à vous tromper? Est-ce que vous l'avez vraiment su d'ailleurs? Est-ce qu'il vaut mieux savoir ou pas? Et que s'est-il passé ensuite? C'est surtout ça qui nous intéresse ce soir. Est-ce que le couple peut survivre à l'infidélité? Comment vous en avez parlé? Quelles ont été les réactions de l'un et de l'autre? 0810 055 056. Notre grand témoin ce soir, c'est le psychiatre Christophe Fauré, auteur du livre « Est-ce que tu m'aimes encore ?» aux éditions du Livre de Poche. Et nous partons à Dijon chez François. Bonsoir François.
Bonsoir.
Vous, c'est votre femme qui vous a trompé.
Oui, c'est ça. Donc nous étions un couple qui marchait très bien. Il n'y a jamais eu une engueulade, rien du tout. Mais en fait, pour faire vite, je pense qu'elle a oublié de se construire. Puis crise de la quarantaine, disons que vous venez de parler de l'insatisfaction sexuelle, je pense que c'était plutôt moi, mais j'ai toujours tenu le coup et j'ai jamais franchi le pas par respect déjà, et un jour j'ai surpris l'infidélité, et donc là je pense que le docteur Fauré a bien résumé les choses tout à l'heure avec un rapprochement au travail et puis surtout un problème psychologique interne de la part de mon ex-épouse.
Comment vous l'avez découvert, François ?
C'était sur le lieu de vacances. A priori, la troisième personne était venue en dernière minute sur le lieu de vacances. Et j'ai trouvé le comportement un petit peu bizarre, notamment lever tôt au réveil. C'était pas le genre de mon ex-épouse. Et un jour, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose, et puis je me disais, mais n'importe quoi, que j'ai voulu suivre, et voilà, le choc est terrible.
Et là, qu'est-ce qui se passe? On en parle, on les choses, on met les choses à plat?
Beaucoup de discussions, et moi, j'ai voulu tout savoir, peut-être un peu trop, j'ai posé peut-être un peu trop de questions, donc c'est peut-être pour ça que je voulais intervenir, pour peut-être vouloir poser des questions, oui, mais les bonnes, peut-être pas trop chercher à creuser. Bien évidemment sur le côté sexuel et tout.
Voilà, donc Christophe, vous voulez réagir tout de suite là sur François.
Complètement d'accord François. Vraiment c'est important quand on essaie de reconstruire, donne-moi les détails, et on fait parfois les détails, mais trop de détails sexuels, vous avez complètement raison, peuvent véritablement nuire à la reconstruction. Et je vous invite, mesdames et messieurs qui sont trompés, à ne pas aller chercher trop, parce que ça va vous suivre, et quand vous ferez l'amour ensemble à nouveau, ces images vont émerger dans votre esprit, et ça peut vraiment abîmer les choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
C'est pas le côté où il faut creuser, donc voilà. Donc après j'ai fait pas mal de lectures, notamment pour comprendre la dérive psychologique. Je crois que c'était d'ailleurs un livre du docteur Fauré, Ensemble mais seul,
tout à fait. Donc, après vous avez le sentiment de solitude dans le couple,
ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, parce que j'ai compris pas mal de choses, puis ça corroborait ce qu'elle m'avait raconté également, donc après on a elle a voulu réfléchir, elle est partie dans un appart pendant un mois, deux mois on va dire. Après on a voulu essayer de reconstruire. Moi je sais que j'ai voulu faire l'effort, notamment pour les enfants, pour les protéger. Donc à ce jour, ils savent toujours rien. J'aurais pu faire le choix de vraiment, comment on pourrait dire, la démonter complètement et puis l'anéantir.
Vous avez fait un bon choix, je vous assure.
J'ai pas voulu, je savais que ça tomberait sur les enfants, donc j'ai pas voulu, je les ai protégés. Et donc à ce jour, je crois qu'ils ne savent toujours rien. On s'entend très bien, de toute façon. Donc on essaie de reconstruire avec un médecin, médiateur, comme ça, mais pas parce qu'on avait des soucis de communication, mais pour que nous donner des pistes.
Et puis c'est bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur aussi.
Voilà, c'était ça, pour donner des pistes, pour que moi, effectivement, bon, vu tout ce qui s'était passé, même si elle voulait tenter de revenir, que j'ai dit, que je sois patient du point de vue sexuel, par exemple, notamment. Donc il était là pour me faire comprendre qu'il fallait être patient. Ensuite, elle aussi avait des choses à respecter. Et au bout de 4-5 mois, voilà, j'ai dit, bon, alors voilà ce qu'il nous a dit. Donc, lui, il m'a dit de faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit tout. Toi, il t'a dit de faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, qu'est-ce que t'as fait? Puis, voilà, elle disait bien qu'elle faisait pas les efforts adéquats pour revenir. Mais je pense que, voilà, son esprit était parti.
Et vous en êtes où, alors, là, concrètement, François?
Personnellement?
Bah, tous les deux?
Tous les deux. Bon, on s'entend très bien.
Vous vivez toujours ensemble?
Non, non, on vit plus ensemble.
Ah, non, d'accord.
Non. Au bout de 4-5 mois, j'ai dit, écoute, maintenant, puisque tu veux pas faire les efforts, je pense que c'est mieux de partir, parce qu'en fait, la personne qu'elle voyait était toujours sur son lieu de travail, normalement, donc elle devait ne plus y parler, mais bien sûr, c'était plus fort qu'elle, et puis moi, c'était plus fort que moi de ne pas aller vérifier si
voilà, se passait quelque chose ou pas.
Oui. Encore des contacts, voilà, et puis elle me disait qu'elle pouvait pas décrocher, et donc à ce jour...
Ils sont toujours ensemble, aujourd'hui?
Non, je ne crois pas. J'ai pas posé la question, mais je crois que depuis, on va dire, 3 semaines, 1 mois, voilà, de toute façon, il y avait eu des choses, et ils ne sont plus ensemble. Voilà.
Et si votre compagne vous disait, je suis désolée, je t'ai fait du mal, je reviens, comment vous réagiriez?
Non, moi j'ai... j'ai passé... Bah, de toute façon, elle est toujours... elle a un mal-être profond qui n'est absolument pas résolu. Et donc, de toute façon, voilà, moi j'ai toujours été aux petits soins, trop aux petits soins, parce qu'a priori, j'ai même accentué son sentiment de solitude et, on va dire, d'inutilité au sein du couple, parce que j'étais très, de la famille, j'étais très investi dans la famille, pour les enfants et tout. Et donc, voilà, donc, non, au jour d'aujourd'hui, moi, même si c'était très très difficile au début, donc il y a eu les lectures pour m'en sortir, la musique également, donc une période très productive en texte, voilà, qui voit petit à petit le jour maintenant, donc...
C'est bien ça. Ça c'est bien. Vous pensez aussi à vous, François. On voit que on a beau y mettre toute son énergie, faire beaucoup d'efforts,
il faut vraiment clairement être deux. Et si la personne qui a trompé garde toujours dans le secret de son cœur un attachement profond pour l'autre personne, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir reconstruire. Paradoxalement, un signe qu'on va dans le bon sens, c'est quand la personne quitte la troisième personne et dit « Ok, je me réengage » et que on constate qu'elle est très triste, qu'elle est dans la peine. Ça peut paraître paradoxal, me disant « Mais tu es très triste, elle te manque, tu es dans la peine. Bah, » c'est un bon signe que ça signe qu'elle est dans le deuil de la relation, qu'elle a vraiment coupé ce lien émotionnel et qu'on le veuille ou non, elle a besoin de cicatriser cette plaie. Donc c'est un bon signe.
Pardonner quand même.
Ah, c'est clair. Hein.
C'est pas facile.
Vous savez, Vanessa, dans l'infidélité, la capacité à pardonner est très directement reliée à la colère. Plus je suis en colère contre toi, moins je peux te pardonner. Et plus ma colère diminue, plus augmente ma capacité en moi à te pardonner. Donc, ça veut dire quoi ? Pardonner dans le couple, au bout du compte, ça veut dire travailler sur la colère. Et comment je peux faire pour apaiser ta colère ? Comment je peux faire pour que tu ne sois pas toujours dans le ressentiment ? Et c'est relié immédiatement avec le sentiment de refaire confiance dans le couple. Et là, c'est relié au sentiment de sécurité dans la relation.
François, merci beaucoup de nous avoir appelés. Ce soir, on parle d'infidélité et on vous attend sur France Bleu. J'espère que vous restez jusqu'au bout de l'émission. 0810 055 056. Est-ce qu'on peut se remettre de l'infidélité de son conjoint? Est-ce qu'on peut imaginer de nouveau vivre ensemble, faire des projets, refaire l'amour ensemble aussi? Venez nous raconter comment vous êtes reconstruit après l'infidélité. 0810 055 056 jusqu'à 22h, vous avez la parole.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Amour, désamour, mensonge, trahison, pardon aussi, réconciliation, reconstruction. Est-ce qu'on peut se remettre de l'infidélité? C'est le sujet d'On se dit tout avec vos témoignages ce soir au 0810 055 056 avec le docteur Christophe Fauré qui est notre grand témoin et qui vient de sortir. Est-ce que tu m'aimes encore? Se reconstruire après l'infidélité aux éditions Le Livre de Poche. Le titre, Est-ce que tu m'aimes encore? On en parlait en écoutant Grégoire. On peut lire dans les deux
exactement,
sens.
Exactement. J'ai voulu un titre qui est, si on tente la reconstruction, la personne trompée peut dire, oui, mais si on reconstruit notre couple, mais est-ce que tu m'aimes encore? Et la personne qui était trompée peut lui dire, oui, mais toi, est-ce que tu m'aimes encore? Mm-hmm. Et comme ça, ça marche dans les deux sens parce qu'il y a, dans la reconstruction, il y a vraiment autant d'insécurité, de troubles de part et d'autre.
Il y a peur. On a peur de plus avoir cette sécurité amoureuse une fois qu'il y a eu infidélité.
On a surtout conscience de ce qu'on peut perdre, de l'immensité de ce qu'on peut perdre, et aussi parfois un doute, une peur en soi de est-ce que je peux retrouver le sentiment d'amour, est-ce que je peux retrouver dans la relation conjugale ce que j'ai peut-être découvert dans l'autre relation, la relation extra-conjugale, est-ce que je peux retrouver le même élan, le même enthousiasme? Et c'est tout l'enjeu de la reconstruction, d'essayer de voir que ce qui a été découvert dans la relation extra-conjugale, est-ce que cela est transposable d'une certaine manière dans le cadre de notre relation de couple.
Olivier est avec nous depuis la Normandie. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ça va bien, je vous remercie. Soyez le bienvenu. On va parler de votre histoire avec votre compagne qui vous a trompé. Vous avez pardonné?
Oui. Ben, j'ai pardonné, oui, et puis elle a continué. Là, j'ai dit, bon, on fait quoi? Ben, on arrête, quoi. C'est pas la peine d'aller plus loin quand il y a plus de... Quand le ressort est cassé, comme on dit, de son côté. J'ai dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et de mon côté, c'était pareil. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Comme je disais à votre collègue, bon, elle est partie un soir avec ce monsieur au cinéma. Il était 19h15. Et ce monsieur me dit, non, vous inquiétez pas, je vais chercher ma compagne à mon domicile. Et on va au cinéma ensemble. Mais moi, je pouvais pas... Elle avec eux, j'étais d'astreinte pour mon travail. Mais quand même, je me suis dit, tiens, j'avais réussi à chiper son nom, ce monsieur. J'ai fouiné dans l'annuaire, et j'ai trouvé son nom dans la même ville que la mienne. Hein. Et j'ai appelé, je suis tombé sur sa compagne. Ben, j'ai dit, vous êtes là, vous? Ben, elle me dit, mais qui êtes-vous? Bon, j'ai expliqué. Mmh.
Ça que vous avez découvert le pot aux roses. Olivier, voilà. On va essayer de parler plutôt de l'après, parce que ce qui s'est passé, ça vous appartient aussi véritablement. Mais quand vous dites, je lui ai pardonné, ça veut dire que vous êtes capable de pardonner une fois, mais que la fois d'après, ça marche plus, c'est terminé?
Voilà, exactement. J'ai pardonné une fois parce que je me suis dit, bon, c'était une petite... Je pensais, elle me disait non, c'est rien, c'est une erreur de ma part, je suis tombé dans un piège, voilà. Et puis, j'ai dit bon, ok, on repart. Bon, j'avais, ce jour-là d'ailleurs, quand elle est partie, j'avais prévu d'inviter, sans lui dire, ses parents, enfin toute la famille, pour la demander en mariage, quoi.
Ouais, mais à votre avis, Olivier, pourquoi il y a une deuxième infidélité? Qu'est-ce qui n'avait pas été, entre guillemets, résolu la première fois pour que à nouveau, il y ait les conditions d'une nouvelle infidélité? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans mon entourage professionnel, j'avais des nouvelles collègues femmes de travail qui était arrivé. Donc j'étais en charge des formations de ces collègues de travail. Donc elle me faisait des crises de jalousie par rapport à ces dames. Oui, mais qui c'est celle-là, parce que bon, elles appelaient chez moi à domicile pour demander des renseignements, comment fallait faire telle ou telle chose. Et puis, des fois, elle décrochait le téléphone, et puis elle me disait, oui, mais c'est pas celle-là, mais c'est qui celle-là qui accouche avec? Enfin bon, j'avais dit...
Elle vous provoquait, en fait, pour mieux cacher ce qu'elle vivait, c'est ça?
Voilà, exactement. Mm. Et puis, on avait un petit garçon aussi, qui était adorable, d'ailleurs, de 4 ans à l'époque, et Bon, son lit, ce petit bonhomme, il a eu des petits soucis, donc j'avais installé son lit dans notre chambre pour lui faire une petite réparation, et puis en m'asseyant par terre, j'ai trouvé une boîte de préservatifs planquée dans les montants de
Mais ça, vous répondez pas, excusez-moi Olivier, vous répondez pas à la question de Christophe Fauré. Pourquoi, quand vous lui pardonnez une fois, j'imagine qu'elle vous dit non, je suis désolée, j'ai fait une bêtise, pourquoi elle recommence? Est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi? Il y avait des sentiments pour cet homme?
Non, il n'y avait pas de sentiment, c'était plus physique, l'envie de coucher avec lui. Et puis,
est-ce que vous aviez creusé un petit peu ce qui avait motivé sa séparation, son infidélité initialement? Parce que souvent, Olivier, on voit que quand on essaie de reconstruire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si on modifie pas les causes initiales de l'infidélité, de la première infidélité, eh bien, on se rend compte qu'il y a les mêmes effets.
Mais si par exemple, elle lui dit, je suis pas satisfaite sexuellement, tu t'occupes pas suffisamment de moi. S'il fait rien pour, c'est ça, elle
pourrait continuer. Oui, ça peut être la même cause. Ou alors si c'est l'impression, je me sens pas exister dans la relation. Et puis si quand on revient ensemble, ben je continue à pas du tout me sentir exister dans la relation. Ça peut être à nouveau la porte ouverte à une autre infidélité.
Merci de votre appel, Olivier. On va accueillir tout de suite Jean en Basse-Normandie. Bonsoir, Jean.
Oui, bonsoir.
Vous essayez de reconstruire en ce moment après l'infidélité de votre femme?
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est une histoire qui a démarré donc il y a 10 mois là pour ma femme en fait. Donc c'était quelqu'un que je connaissais et donc elle avait une relation suivie pendant 10 mois et elle m'a avoué récemment en fait cette relation. Donc ça a été.
C'est elle qui vous l'a dit. C'est pas vous qui l'avez découvert.
Oui, non, du tout, du tout. C'est elle qui me l'a dit. Moi, j'étais. Enfin, j'avais vraiment rien vu quoi.
Oui. Qu'est-ce qui l'a motivé à vous parler, à votre avis?
Je pense que enfin, ma femme, d'après ce que m'a dit ma femme, en fait, elle était très mal en fait de vivre entre deux hommes quoi.
D'accord, ouais.
Et du coup, elle a eu besoin d'en parler, en fait, m'a-t-elle dit, pour revenir vers son mari, quoi.
D'accord, la démarche est belle.
Donc, il y a vraiment déjà une démarche de reconstruction, du moins un désir de reconstruction.
Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quand même assez rassurant.
Ouais, ben oui, bien sûr.
Malgré que je sois quand même, enfin, c'est récent, hein, ça a un mois, donc je suis encore, bien traumatisé par la chose, quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal à reprendre confiance, je suis en perte de repère totale, enfin, j'ai un peu toutes les choses, quoi.
Elle vous a expliqué, votre femme, ce qui l'a poussé vers cet homme?
Oui, en fait, d'après ce qu'elle m'en a expliqué, c'est vrai, je suis d'accord avec elle, hein, j'avais tendance à être assez distant, pas, entre guillemets, pas très tendre. Et du coup, cet homme qu'elle a croisé et que je connaissais d'ailleurs, en fait, lui a apporté toutes ces choses. Et du coup, c'est comme ça qu'elle s'est rapprochée de cet homme. Quoi. Mais sans jamais, a priori, me perdre de vue, quoi. Donc c'est ça qui est rassurant, j'ai envie de dire, dans l'étape de reconstruction actuelle. Quoi.
Et vous pensez que vous pouvez faire le chemin de plus de tendresse envers elle?
J'ai envie de dire que cette histoire, en fait, m'a ouvert un peu les yeux sur ce que j'éprouve pour elle.
Ouais.
Et sur l'envie d'être proche d'elle et d'en prendre soin. Quoi.
Ouais, ça vaut le coup. Hein.
Joli, vraiment, quand vous en parlez.
C'est vrai que l'histoire fait mal. Quoi.
Ouais, l'histoire fait mal, mais si ça aboutit à quelque chose qui où vous rejoignez encore plus dans de la tendresse mutuelle.
Mais c'est dur quand même, hein. Ça ne doit pas être évident parce que te dire.
Sacré leçon.
Quelque part, on se dit bon, alors elle me reproche que je ne suis pas suffisamment attentif. Il va falloir que je sois attentif, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher, j'imagine, genre de penser à l'autre. Non, il n'y a pas de ça aussi, de se dire...
Oui, il y a un peu de wow, ça. Quoi. J'essaie d'être attentif, mais je suis toujours déchiré avec cette histoire en fait, qui me fait mal. Et quelque part, je lui en veux un peu aussi. Donc, en ce moment, c'est très difficile à ce niveau-là. Quoi.
À votre épouse, il y a un peu de colère vis-à-vis d'elle?
Oui, il y a un peu de colère. Oui, parce que...
Enfin, et vous vous dites quoi dans votre colère? C'est quoi?
C'est le mensonge. Enfin, j'ai envie de dire le mensonge, la trahison, et puis le fait que ça a été une relation qui a été largement consommée. Enfin, voilà, quoi.
Ouais.
Dur à avaler, quoi.
Elle vous a parlé de ses sentiments vis-à-vis de vous et vis-à-vis de lui. Elle vous a dit c'est pas pareil, par exemple.
Enfin, justement, elle a du mal. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a un peu de mal à se prononcer, justement. C'est-à-dire qu'elle était très amoureuse de ce personnage, mais je sens aussi qu'elle aimait encore son mari. J'ai toujours tendance à me poser la question, mais qui était son vrai compagnon à ce moment-là, quoi. Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans ma tête.
C'est normal qu'on se les pose, ces questions, qu'on se fasse des scénarios pas possibles.
On se fait des tas de films et le fait des pensées qui tournent en boucle, hein, c'est tout récent, Jean, vous dites, hein, ça fait seulement il y a un mois. C'est complètement normal que ça tourne un peu de façon obsessionnelle. Mais dites-moi, Jean, pour vous, qu'est-ce que ce serait la meilleure reconstruction avec elle? Il faudrait quoi pour que vraiment, vraiment, au fil du temps, hein, pas je dis pas en 5 minutes, hein, mais au fil du temps, il faudrait quoi pour que vraiment vous retrouviez l'un et l'autre?
J'ai envie de dire, j'aurais envie que ça redevienne comme avant, comme ça, parce que j'étais...
Ouais, non, surtout pas, Jean. Jean, surtout pas. Comme avant, c'est ça qui a creusé les circonstances de l'infidélité. Il faut surtout pas que ce soit comme avant. Il faut changer la donne, hein. Parce que si c'est comme avant, c'était pas cette tendresse.
C'est quoi le conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là?
C'est vraiment essayer de se poser tous les deux. Vous lui demandez de quoi tu as besoin maintenant dans notre relation telle qu'elle est. Et elle qui vous demande, mais toi Jean, de quoi tu as besoin dans notre relation maintenant? Et vous rapprochez vos deux souhaits, vos deux aspirations. Essayez de voir quels sont les points communs et qu'est-ce qu'on a envie de faire grandir dans notre couple qu'on n'a peut-être pas encore fait grandir dans notre couple. Il y a peut-être aussi des aspects d'elle même qui se sont un peu éteints dans la relation, qu'elle a besoin que vous l'aidiez à faire vivre. Et de même, il y a peut-être des choses que vous avez éteintes dans votre relation et vous avez peut-être besoin de son aide pour les faire vivre. Donc, comme si le couple, c'était une espèce de serre dans laquelle vous deux pouvez vraiment pleinement vous déployer.
C'est joli, ça, comme image.
C'est super joli.
Beau. Merci beaucoup, Jean, d'être venu témoigner ce soir et bravo parce que vous êtes très courageux
vous tenez le bon bout,
soir.
Je crois, vraiment.
Ouais, je persévérais,
je suis presque sûr que ça va
ça
bien marcher.
Ça vaut le coup, vraiment. Ouais, merci beaucoup Jean. 0810 055 056, on parle de l'infidélité, de comment se reconstruire après une infidélité dans son couple. Nous serons avec Claire dans quelques instants depuis l'Alsace.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et on se dit tout, et ça fait surtout du bien d'en parler, même si le sujet est difficile, délicat, parfois un peu tabou. L'infidélité, c'est le docteur Christophe Fauré qui est notre grand témoin avec son livre « Est-ce que tu m'aimes encore ?»« Se reconstruire après l'infidélité » aux éditions Le Livre de Poche. Et nous sommes maintenant avec Claire en Alsace. Bonsoir Claire.
Bonsoir Vanessa.
Double infidélité, hein, j'ai pas dit de bêtises, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Ça commence par vous, c'est votre histoire d'abord?
C'est mon histoire, oui.
Racontez-nous un petit peu pour qu'on essaie de comprendre.
Donc j'ai épousé un homme charmant, nous étions jeunes, 24 ans, et nous étions pendant 10-15 ans, c'est un très bel amour, une vie de famille, enfin plein de projets, nous étions complémentaires, il n'y avait aucun nuage, et puis petit à petit, mon mari, de par son métier, a dû se déplacer longtemps à l'étranger, et j'étais souvent seule avec mon enfant, et puis quand il revenait, on se retrouvait plus, et il me disait que j'étais moche, tout était bon pour qu'il ne me touche plus, et puis moi, je voulais quand même, j'étais jeune, j'avais 30 ans, 35 ans, et là, j'ai commencé à avoir quelques relations très, très courtes, parce que je culpabilisais, je voulais pas m'attacher à quelqu'un d'autre, parce que j'aimais mon mari, et donc j'ai eu quelques petites aventures pour me prouver, pour que ces amants éventuels, épisodiques, me prouvent que j'étais, entre guillemets, normale, quoi, que j'étais désirable, et donc j'ai repris confiance en moi, peu à peu, et donc c'était toujours un amour qui allait vers le bas, qui battait de l'aile de plus en plus, et j'ai jamais dit à mon mari que j'avais des aventures, et un jour il rentre au bout de 15 ans de mariage, les yeux brillants, et je connaissais qu'il était plus comme d'habitude, il était charmant, et le soir même il a craqué, il a pleuré dans mes bras, il m'a dit écoute, je suis amoureux d'une jeune femme, voilà, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui m'arrive, c'est la première fois. Et pourtant je t'aime, toi j'ai pas envie de te... tu es la femme de ma vie. Alors bon, moi je bien sûr c'était un coup très dur pour moi parce que je sentais que j'allais le perdre vraiment. Et puis j'ai passé une nuit blanche, le lendemain matin j'ai fait ses poches pour trouver le numéro de téléphone, chose que j'ai jamais fait, que je ne fais pas non plus habituellement. J'ai téléphoné à cette jeune femme, je lui ai demandé si c'était sérieux, si c'était juste une amourette. Elle était évasive et j'ai senti au fond de mon cœur que c'était juste quelque chose, un coup de vent quoi, qui passait. Et le lendemain j'ai dit écoute, va la rejoindre à l'étranger, pars 3 semaines, 1 mois s'il le faut et reviens à moi. il était abasourdi et je lui ai dit, écoute, j'ai aussi eu des amants, je vais pas faire de scène de ménage, je sais que je risque de te perdre, mais j'ai confiance, voilà, et pars, et vis cet amour, et je t'attends, je t'aime toujours, voilà. Donc il est parti. Et je l'ai accueilli vraiment à bras ouverts. Il est revenu au bout de 3 semaines, toujours amoureux, bien sûr. Il est souffrait. Et puis, moi, je l'ai aidé à se reconstruire. Et puis, bon, cette jeune femme ne voulait plus continuer avec lui. Voilà, c'était juste une amourette de travail, quoi. Et donc, c'est reparti encore 10 ans. Et grâce à ça, j'ai retrouvé mon mari comme au premier jour. Notre amour s'est reconstruit, bizarrement, d'une façon incroyable. Ça a duré encore 10 ans. Et au bout de 10 ans, rebelote, voilà, le ronron, sentait qu'il... on n'avait plus de partage, on ne parlait plus, on ne faisait plus rien ensemble. Et là, j'ai rencontré quelqu'un. Je l'ai quitté, moi. Ça fait quand même 25 ans en tout, et voilà, je l'ai quitté pour un autre homme, voilà. Et ensuite, il était effondré, bien sûr, il voulait même se suicider, et je l'ai de nouveau aidé à que la vie continue, et que voilà, il reste toujours quelque chose entre nous, une complicité, et encore aujourd'hui, nous travaillons ensemble, voilà.
Quelle histoire.
Donc, on n'a jamais vraiment pu se quitter, vraiment.
Ouais, mais vous avez fait des choses incroyables, Claire, pour sauver votre histoire. C'est, je sais pas ce que vous en pensez, Christophe, mais.
Je vais écrire un bouquin un jour là-dessus.
Ah oui, là, la façon dont vous le racontiez, en plus, il y avait quelque chose de très théâtral.
En fait, il y a eu une vraiment compréhension profonde de ce qu'il vivait, parce que c'était votre histoire. Son histoire était en miroir de la vôtre. Et donc, j'imagine que c'est là où vous avez pu, avec sagesse, je crois que c'est le mot, lui dire, OK, je comprends ce que tu vis et vis-le. C'est un peu ce qui était dit au tout début de l'émission. Quand on donne l'espace à l'autre et qu'on lui donne la possibilité de vivre ce qu'il vit, eh bien, il vous est revenu.
C'est grâce à vous, quand je vous ai écouté il y a une heure dans la voiture, j'ai eu le coup de cœur, j'ai dit, faut que je témoigne, parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit. Ça. J'ai laissé partir mon mari, au lieu de faire une scène de ménage, il s'attendait vraiment à ce que je fasse une scène de ménage atroce, et je suis sûre qu'il m'aurait quitté à ce moment-là. Et
vous savez ça c'est une preuve immense d'amour.
En fait,
vous lui avez témoigné votre amour en disant, va vivre ce que tu as à vivre.
Voilà,
mais ça vous mesurez bien, Claire, que c'est pas tout le monde qui a cette capacité, le cœur suffisamment grand pour accepter cela. Il y avait clairement un risque, vous l'avez pris, et voyez, il y a eu 25 ans de relation après. Mais pour moi, c'est pas un échec, parce que vraiment, on sent maintenant, on voit dans notre société qu'il est possible, de façon complètement normale, assez naturelle, que du fait de l'augmentation de la durée de vie, on peut avoir deux, voire trois grandes histoires d'amour. Et c'est pas un échec. La preuve en est, c'est que vous êtes toujours en lien très, très chaleureux, très affectueux avec votre compagnon. Et c'est pas un échec, à mon sens, que 25 ans après, vous soyez séparés. On peut avoir dans une vie deux grandes histoires d'amour, c'est pas un échec.
Moi, ce que je note quand même, alors ça sort un tout petit peu du sujet de l'infidélité, mais un couple, il faut faire des efforts. On voit bien que sinon, ça retombe comme un soufflet.
L'amour, c'est entre deux personnes comme un pont qui relie deux personnes, et un mur, un pont, s'il n'y a pas de maintenance régulière au jour le jour, il rouille et puis il s'effondre, et on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment une fleur qu'il faut nourrir, protéger, arroser régulièrement. C'est pas acquis, l'amour. Quelle idée de croire que une fois qu'on a dit oui devant un maire, ça y est, c'est acquis. Il y a rien de plus fragile que l'amour qu'on a pour la personne, et j'adore cette définition de l'amour d'un auteur américain qui s'appelle Scott Peck. C'est vraiment l'amour, c'est l'effort que l'on décide de faire pour se dépasser, pour nourrir le développement, son développement propre et le développement de l'autre. Donc c'est vraiment un travail d'amour. Dans le livre qui a été mentionné tout à l'heure, là, Ensemble mais seul, je parle de travail d'amour. C'est facile de tomber amoureux, hyper facile, mais travailler, nourrir l'amour, vraiment avoir le souci de l'autre, même si ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, c'est vraiment c'est pas acquis.
Merci beaucoup, Claire, pour votre témoignage. C'est votre histoire. Vous dites c'est facile de tomber amoureux, mais c'est un petit peu ce qui arrive quand on trompe. On a l'impression que c'est de l'amour, et en fait ce n'est qu'une illusion.
C'est être amoureux, c'est vraiment être amoureux, c'est pas nécessairement de l'amour.
Merci beaucoup, Claire, et bonne fin de soirée à vous. À très bientôt.